Podcast.
La première. Bientôt à table, Sophie Moons.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission gourmande. Ce matin au programme, la cuisine traditionnelle belge, carbonade à la flamande, croquettes aux crevettes, filets américains, steak frites, autant de plats emblématiques pour une cuisine haute en couleur. Nos invités en sont friands, le premier écrit sur elle, le second lui a dédié sa vie, Marc Declerc, Pierre Winans, bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors Marc Declerc.
Oui.
Bonjour, vous êtes donc auteur de cet ouvrage, une bible, La cuisine traditionnelle belge, publié chez Luc Pire. C'est un ouvrage à mi-chemin entre le livre de cuisine, le guide de gastronomique avec de bonnes adresses et surtout un recueil d'histoires culinaires. Donc vous survolez en fait quelques 25 plats traditionnels à travers leurs origines.
Oui, oui.
Et on découvre par exemple que certains datent du Moyen-Âge, que par exemple le fait de lier avec de la mie de pain, eh bien, c'est une tradition moyenâgeuse.
Même de l'époque romaine.
C'est tout à fait passionnant, vous nous ferez découvrir tout cela. Et puis à vos côtés, notre parrain, rien qu'à nous, Pierre Winans. Pas Pierre.
Oui, madame.
Est-ce qu'on rappelle que vous avez quand même œuvré 50 ans au Comme Chez Soi?
Oui, oui.
50 ans à sublimer cette cuisine de notre terroir.
Oui.
Comment est-ce que vous pourriez la
J'ai encore bonne mine.
Oui, et, oui. Et quelle mine en plus.
Mine de retraité, très heureux.
En tous les cas, Pierre vous fera partager et vous donnera des bons conseils pour réussir des plats qui, a priori, sont assez faciles, mais qui méritent quand même le petit doigté. Si vous avez des questions à nous adresser, n'hésitez pas, ça se passe au 02 737 47 67 ou via le site lapremière.be ou, évidemment, inutile de le rappeler, via la page Facebook de notre émission.
Bientôt à table, les petites histoires de Carlo.
Bonjour Carlo, une fois.
Bonjour Sophie.
Oui, je sais.
Oui, oui, c'est pas grave. Après, vous assumez. Hein. Bon, Sophie, dites, ça va pas ou quoi de me faire parler de cuisine belge en période préélectorale?
Ouais,
qu'est-ce que vous me faites faire?
On marche sur des œufs, là.
Vous voulez que, j'allais le dire, qu'on ait des ennuis ou quoi, qu'on nous ferme la boutique? Moi, j'ai envie d'en faire encore des centaines d'émissions de Bientôt à table avec vous. Bien bon, comme vous le disiez, on va marcher sur des œufs et tant qu'à faire des œufs à la Meulemeester, hein, messieurs. Oui, parce qu'on va parler, tenez-vous bien, de cuisine traditionnelle belge, non pas flamande, pas bruxelloise, mais belge de Belgique. Dieu merci, Marc Declerc, vous avez pondu un livre qui nous facilite bien le boulot. Excellent bouquin qui reprend 25 recettes plus traditionnelles que ça. Tu meurs de cuisine traditionnelle belge, ou à tout le moins de cuisine de Belgique. Bon Marc, vous n'avez pas pris beaucoup de risques, hein. Vous avez pris des plats bien de chez ce qui est encore chez nous. Un très joli inventaire de plats emblématiques, forcément emblématiques, et qui mettront tout le monde d'accord. Au jour d'aujourd'hui, ces plats sont bien des classiques de Belgique.
Ça, alors, vrai.
Tout cela suffit-il à répondre à la grande question, roulement de tambour, y a-t-il une cuisine spécifiquement belge? J'avoue que par respect immense pour le grand Pierre Winans, assis juste à côté de moi, dont on sait à quel point il est passionné de cuisine belge et combien il a fait pour la gastronomie de ce pays, j'ose à peine poser la question.
Oui, je n'ai pas fini non plus.
Oui, non, non, tout à fait.
Bon, non, j'espère,
vous voulez, il va frapper là tout de suite.
Vous voulez le fond de ma pensée? Moi, je n'aime pas trop définir les cuisines par rapport à leur nationalité. Ben oui, réfléchissons deux secondes. Quand on parle de cuisine française, de fait, on se réfère à la cuisine bourgeoise et gastronomique codifiée par Escoffier. Si on parle de cuisine chinoise, en général, c'est à la cuisine cantonaise qu'on se réfère. Qu'est-ce qui fait qu'une recette appartiendra à la cuisine belge? Le fait qu'on la fasse en Belgique d'une certaine façon? Bon, ben alors le spaghetti bolognaise est une recette de cuisine belge, hein, tant pis. Et si une recette est tellement locale que seuls les locaux la connaissent? Tiens, par exemple, je ne sais pas tout à fait au hasard, la tarte à l'jotte, c'est du belge? Bon, c'est quand même un petit peu nivellois avant d'être belge. Alors, la cuisine belge, serait-ce un dénominateur commun des recettes communes à tous, de Ostende à Arlon? Peut-être. Mais franchement, je pense que la cuisine à la belge, la cuisine en Belgique, la gastronomie ou la cuisine de tous les jours, c'est plutôt une façon de manger, une attitude. Un manger à la belge qui varie un peu du nord au sud et qui traîne pas mal de paradoxes. Oui, ici on aime manger, on aime les restaurants, on aime que l'on ne nous raconte pas des sornettes à notre appétit. Et si nous commandons un steak, il n'a pas intérêt ce steak à ressembler à la feuille de cigarette qu'acceptent parfois nos amis français. Si nous commandons du homard, il a intérêt à bien se tenir. Et si nous allons à la mer, nous savons tous, wallons comme flamands ou bruxellois, nous mettre à éplucher la crevette pour remplir le pistolet du matin. Oui, dans ce pays paradoxe, on adore manger sur une base très quotidienne et en même temps, on perd de plus en plus la notion et la connaissance de nos produits du terroir, qu'ils soient flamands, wallons ou bruxellois. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de boulot. Alors, Marc,
ouais.
Je pense que vous avez fait œuvre utile, mais on va en parler, hein, parce que vous nous mettez en appétit. Vos recettes typiques, elles nous donnent faim. Et quelque part, elles nous donnent envie de revendiquer bien fort cette identité culinaire des gens d'ici. On aime bien de bien manger. C'est pas la peine de nous raconter des carabistouilles dans l'assiette.
Avec l'accent, bravo.
Oui, merci.
Chers auditeurs, soyez les bienvenus dans l'univers de notre cuisine belge. On en parle juste après, Monsieur Jacques Brel, la chanson de Jackie.
La première, podcast.
11h13, bientôt à table, émission dédiée à la cuisine made in Belgium. Qui a inventé le filet américain? Quand a-t-on dégusté les premières tomates crevettes? Quelle est l'origine de l'anguille au vert? Autant de questions que s'est posé notre invité Marc Declerc dans son ouvrage dédié à la cuisine de tradition en Belgique. Des plats qui, depuis des siècles, vous l'expliquez, font partie intégrante de notre culture gastronomique, même si l'on découvre au fil de ce livre que les origines de ceux-ci sont très, très différentes. Comment est-ce que vous pourriez la définir, cette cuisine belge? Carlo nous a donné quelques pistes, son avis sur la question. Vous en pensez quoi? La cuisine belge, c'est quoi aujourd'hui?
Pour moi, la cuisine belge, c'est une cuisine qui a ses racines dans les Moyen-Âge. C'est une cuisine, par exemple, le recours à la bière, le mariage aigre-doux, l'utilisation de mie de pain ou de biscotte émiettée pour lier une sauce, ont plus de 500 ans et sont toujours appliqués pour la préparation de plusieurs de nos classiques nationaux. Pour moi, c'est une cuisine ancienne, mais aussi une cuisine moderne. Parce que, par exemple, le steak frites, c'est quelque chose de moderne.
Déjà, fallait inventer la frite.
Et qui a inventé la frite, les Belges ou les Français? Ça, c'est une autre question, d'ailleurs.
Je pense que ce sont des Français. Pour moi, c'est un Français.
Et moi, je pense que c'est plutôt des Belges.
L'histoire de...
Quelle est la raison pour que...
Il y a plusieurs versions, en tous les cas.
Ce sont des Français pour vous.
Attendez, parce que je l'ai ici. Je crois que le premier qui était ici pour plonger de pommes de terre dans la caisse ou l'huile chaude, ce n'était pas une nouveauté. Mais le premier, couper de pommes de terre en bâtonnets et les faire frites, c'était un Alsacien qui était sur les marchés, les foires. Ouais. Il s'appelle Fritz. Il avait une baraque à frites qui s'appelait le Sébastopol. Un nom qui évoquait la guerre de Crimée, qui sévissait à l'époque.
Et Fritz, c'était à quelle époque, ça?
1900.
1900, hein, ben avant il y a eu les frites du côté de Namur.
Mais ça, on ne sait pas. C'est Joe Gérard.
Mais il y a deux versions.
Mais on a quand même encore autre chose. C'est que les frites proprement dites, ou la pomme de terre proprement dite, ça, c'est quand même de Montignac qui l'a mis dans ses livres, que nous avons connu la pomme de terre 100 ans avant les Français.
Oui, ça oui, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr.
On en parlait la semaine dernière, d'ailleurs.
Alors, Montignac l'a signalé que on l'a connu donc 100 ans avant. Et lui, il a dit que pendant ces 100 ans, en France, la patate n'était reprise que pour donner à manger aux cochons.
Oui, tout à fait. Parmentier, c'est fin du 18e. Les Belges, elles sont arrivées par l'Allemagne en Belgique.
Mais ce n'est pas pour autant qu'on est les inventeurs de la frite.
Non, mais enfin, soit. On va pas passer toute l'émission là-dessus, mais l'important, c'est qu'elle soit bonne.
Mais par contre, c'est intéressant, pardon Sophie, Marc, ce que vous dites sur le fait que la première frite serait l'œuvre d'un forain. En tout cas, je pense, j'ai lu dans plusieurs sources que c'est au 19e siècle que la frite a acquis sa popularité par le côté forain, justement. Oui, c'est comme ça qu'elle est passée après dans les restaurants. Et au fond, la vraie frite, c'est pas quelque chose qui, au départ, est ménager. C'est pas on ne retrouve rarement des recettes traditionnelles belges ménagères qui se servent avec des frites. Voilà. Mais bon, maintenant, effectivement, c'est devenu... En tout cas, ça nous appartient. En tout cas, nous sommes les meilleurs à les faire. Ça, c'est sûr.
Oui, voilà, c'est sûr. Et surtout, encore une chose, c'est que pourquoi est-ce qu'on est les meilleurs à les faire? C'est si on n'est pas les inventeurs, on en discute, mais on les a quand même affinés. Parce que on le traite deux fois. Mmh. Oui. On le cuit en deux fois. Oui. Et reprenez tous les grands livres de cuisine, que ce soit Montagnier ou une histoire comme ça, là, vous regarderez, il y a des recettes, mais ils ne sont cuites qu'en une fois. Alors que pour des bonnes frites, c'est quand même...
Alors, c'est très intéressant ce que Pierre vient de dire. Il vient de dire quelque chose de très intéressant. C'est que, finalement, un morceau de patrimoine, que ce soit culinaire ou autre chose, appartient surtout à celui qui finalise et qui met au point et qui popularise la recette. Ça, c'est vrai. C'est comme, je veux dire, c'est un peu la même chose pour le risotto. C'est qu'à partir du moment où la recette a été finalisée, c'est vraiment devenu un plat emblématique. Avant, on chipote. Et c'est vrai, c'est très intéressant.
Mais il faut faire une émission rien que sur la
frite. Rien que sur la frite. D'ailleurs, si on ne voit pas comment, ça fait un quart d'heure qu'on est là-dessus.
Oui, on va quand même encore faire une petite minute. La recette d'une bonne frite, une bonne pomme de terre, quel type, par exemple?
La binge en général.
Une bonne binge,
la binge ou la Nicolas éventuellement. Mais il faut des pommes de terre un peu légèrement farineuses, mais pas tombant en compote. Quoi. Bon, il faut l'éplucher au moment. Il faut couper les frites à un centimètre de largeur à peu près. Il faut laver la pomme de terre avant de les couper. Quand on a coupé les frites, il faut juste les essuyer.
On ne relave pas les frites coupées.
Oui, d'accord, justement, parce qu'il ne faut pas enlever l'amidon des pommes de terre. Alors, il faut les plonger dans un bain d'huile, l'huile ou bien de graisse de bœuf.
Oui, de graisse de bœuf.
Mais il faut les plonger à raison d'un quart du volume, à peu près, de façon à ce que les frites aient le...
Quelle température, le premier bain?
160.
140, 160.
Oui, 140, 160.
Mais vraiment pas chaud.
Oui, mais il ne faut pas en mettre de trop dans la friture, parce qu'autrement...
La température descend trop.
La température descend trop, et les
pommes
de terre n'ont pas assez
dans la graisse. Ouais.
Alors, il faut les cuire, donc, 4-5 minutes. Il faut les égoutter, bien les égoutter, les sécher et les mettre à reposer. Parce qu'il faut il faut les laisser reposer une demi-heure et puis les replonger dans un grand bain au niveau de la friture, de nouveau en raison d'un quart du volume.
Et là, à 180.
Après,
là, 180 degrés et les rendre bien croustillantes. Et c'est quand vous avez une pomme de terre qui est croustillante à l'extérieur et moelleuse en intérieur.
Et alors, j'adore poser une question à Pierre, c'est pickles ou mayonnaise?
Les deux.
Ben oui.
Et c'est vrai que lorsqu'on parle de frites, et vous l'évoquez, Marc de Clair, dans cet ouvrage, il y a effectivement le fameux steak frites, l'archétype de la gastronomie belge, si on peut appeler ça de la gastronomie. D'où vient cette association qui est devenue véritablement incontournable sur toutes les cartes de cuisine de brasserie belge? Comment est-ce qu'on explique cette association, cette idée d'associer viande et frites? Et pourquoi c'est devenu à ce point-là lié à notre patrimoine?
D'abord, il fallait que...
Pierre,
il fallait une bonne bœuf, parce que ça, c'était le problème, parce que la viande de bœuf était toujours trop coriace pour être largement consommée. Et je crois que c'était entre 1880 et 1910 que le budget de ménage augmente et qu'il y a aussi que la viande de bœuf était comment est-ce qu'on dit ça,
devenait accessible,
que devenait accessible.
Oui. Je j'interprète ce que dit Marc, mais c'est que le steak frites en tant que tel n'est pas vraiment une préparation culinairement très intéressante. Elle est intéressante en ce sens qu'elle représente pour beaucoup un idéal à atteindre.
Oui, c'est quand...
c'est
ça.
Oui, mais
c'est joliment dit ça.
Mais voilà, c'est que quand c'est un peu comme dire dimanche il y aura du poulet. Oui. Youpi, hein. Mais j'ai tout le respect du monde pour ça, parce que quand on n'a pas beaucoup de sous et que l'alimentation n'est pas bonne, on a vraiment l'idéal à atteindre, c'est autour d'un produit simplement transformé, mais c'est ce produit qui est magnifique. Mais ce n'est pas, je ne sais pas si Marc sera d'accord et Pierre, ce n'est pas forcément un plat de cuisine belge en tant que tel. C'est plus un idéal de se dire, chouette, on va pouvoir faire frire. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, la frite, ça a l'air pauvre comme ça. Mais non, parce qu'il faut avoir de la matière grasse pour la faire. Donc c'est un plat qui n'est pas anodin. Il faut disposer de la matière grasse pour la faire. Je crois que plus emblématique de notre cuisine belge historique ou des plats belges sont plus ces mijotés qui, eux, pouvaient être faits quand on a du steak, on fait pas des carbonades. Hein. Et paradoxalement, moi, j'ai plus envie aujourd'hui d'une carbonade que d'un steak frites. Marc, qu'est-ce que je sais pas si la carbonade fait partie.
Mais évidemment qu'elle fait partie. De votre carbonade à la flamande.
C'est nettement plus ancien et peut-être moins inspirationnel, mais plus ancien que le steak frites, non ?
C'est plus ancien. Oui, oui, certainement, parce que
ça remonte au Moyen Âge, la carbonade.
En plus, bien avant. Parce que il y a deux explications. Premièrement, il y a le mot carbonade qui viendra du latin carbo, qui signifie charbon de bois. Oui. Et en italien, c'est devenu charbon et en français carbon. Et de ça, on retrouve
c'est
le terme
en italien,
carbonata
charbon,
et carbonade en français pour désigner les grillades sur charbon de bois. Mais j'ai aussi trouvé que notre carbonade se rapproche très, très fort du civet médiéval.
Le fait qu'on met le pain d'épices, et dans, le fait de mettre le pain dans la sauce, cette liaison au pain, c'est ça que vous disiez en début d'émission
De mettre un mélange de poivre, d'herbe, de pain grillé
qui fait la liaison. Que ça a un côté justement sucré et salé un petit peu.
Ça vient des Moyen Âge.
Et est-ce que la recette ancienne comportait de la moutarde?
Non.
Donc ça, c'est une adjonction plus...
Mais quand même, il y a de la vinaigre.
Ah oui, voilà. Il y a le vinaigre.
C'est le vinaigre. Oui.
Donc c'est vraiment aigre, doux et sucré, salé.
Donc ça, c'est clairement un héritage du Moyen-Âge.
Mais on ne la servait pas avec des frites au Moyen-Âge.
Non.
Ni avec des croquettes. Hein. C'est plus récent, par contre.
J'ai trouvé une recette dans le viandier. C'est 1380. Une recette de civet de lièvre et de veau. Et pour celui à la viande de veau, on commence par griller la viande, mais pas trop longtemps. Et puis, on la coupe en morceaux qu'on rôtit dans du sein doux.
OK.
Avec des oignons émincés. Ensuite, on y ajoute du pain grillé, macéré dans le vin et du bouillon. Après quoi, on laisse mijoter avec du gingembre, de la cannelle.
Ah oui,
typiquement
donc,
pour
par donc contre, la recette a évolué.
Par contre, là, on est au vin. Oui, mais Taïwan, c'est plus au sud. Hein. Mm-hmm. Mais là, la recette est au vin, alors que chez nous,
c'est à la bière.
Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle carbonade à la flamande, Marc de Clair? On a une idée.
C'est les Flamands qui ont décidé ça, non?
À cause de la bière, non?
On peut utiliser de la bière brabançonne, par exemple, l'alambic.
Le lambic, mais ça, oui. En ce temps-là, c'était à la flamande.
Non, mais enfin, on n'est pas obligé d'utiliser de la bière.
Ça, c'est l'élément important de la carbonade à la flamande, c'est la bière, au lieu du vin.
La carbonade.
Et les oignons, non?
Et les oignons.
On est d'accord que la carbonade, effectivement, flamande, mais qu'elle est aussi picarde. C'est-à-dire que la Picardie, en tout cas la Picardie belge et la Picardo-Flandre du nord de la France mangent la même chose. La recette, vous le disiez tout à l'heure, Marc, dans la cuisine piémontaise, il y a une recette qui s'appelle carbonade en italien, mais là c'est aussi du vin.
Carbonata,
aussi du vin. Mais sinon, c'est le principe, c'est du bœuf coupé.
Mais à nouveau, un plat qui est devenu véritablement incontournable.
C'est comme le bœuf bourguignon. Hein. Chacun, c'est comme le Hutzepot, il y a chaque région de l'Europe occidentale ou même presque orientale, on fait un bouillon avec les légumes qu'on a et avec toute la viande qu'on a.
Par contre, ce qui est bien belge, c'est la bière là-dedans.
Mais on peut le faire avec la viande de cheval là aussi.
Ah, ce sera encore
exemple,
plus traditionnel.
Le Willebroek Schep à Willebroek, c'est fait avec la viande
de cheval. Oui.
De cheval. Oui.
Et ça ressemble à une carbonade.
Oui.
C'est à la bière aussi.
C'est la même chose avec la bière.
Chef, la carbonade vaut plutôt au vin, à la bière?
À la bière.
Non, à la bière.
Donnez-nous la recette. Alors, quel type de viande est-ce qu'on utilise et comment est-ce que vous prépareriez une bonne petite carbonade?
De l'ajout de bœuf en général.
Ah oui, c'est bon.
L'ajout de bœuf. Alors, on peut mettre des rognons. On fait sauter
des
rognons.
Vous allez faire peur à Sophie.
Ouf. Oui, non.
Oh oui, faire moins sans rognons, c'est bien aussi. Hein.
Oui, pas les
abats. Admettons.
Oui. Ça donne un petit peu d'amertume.
Mais donc l'idée, c'est aussi qu'on puisse mélanger les morceaux de viande dans cette carbonade.
Ah bah oui, c'est évident.
C'est un peu comme dans le vol au vent.
Mais attendez, Carlo.
C'est quoi?
Je vous aime beaucoup, mais quand vous allez au supermarché, vous avez des petits paquets viande pour carbonade, hein, et hop.
Oui, bah, c'est en général. Oui, bah, hein. Oui, là, ce sera rarement enfin, l'ajout.
Il faut regarder ce qu'il y a dans. Oui, voilà, c'est sûr. Ça. Il faut quand même revenir un petit peu aux artisans. Comme
mais oui. Merci.
Non, non. Donc, mais on les saute, on saute les oignons, on farine, on mouille un petit peu au vinaigre, à la bière, et voilà. On laisse cuire comme un étuvée, et puis alors on peut encore.
Tu mets le pain d'épices ou pas?
On met du pain. On peut, moi, je ne l'ai pas fait au pain d'épices, mais oui. On met une tranche. On met un petit
Marc
peu
non plus. D'où ça vient que dans ma famille, yakis, parce que moi je suis d'origine italienne, mais que la mère de mes enfants, elle met toujours du pain d'épices.
Moi, je mets un tartine
avec de la moutarde.
Donc, Marc, vous mettez du pain.
Oui.
Ouais, chez moi, c'est pain d'épices. Voilà, avec moutarde.
Eh bien, on est ravis pour vous, Carlo.
Mais je m'en doute, Sophie, pour une fois que je raconte ma vie.
Visiblement, votre épouse suit une recette qui est clairement dans les goûts moyenâgeux. Donc, c'est sucré, avec, salé.
Ah, c'est ça. Avec beaucoup des épices.
Mais le pain,
oui, bien sûr.
Le pain d'épices sert à épaissir la sauce.
C'est ça le geste moyenâgeux. Dans
lui donner un goût.
Et donner le goût aussi, bien sûr.
Et des carbonades avec des bonnes frites.
Ah oui,
ça, c'est extraordinaire. Chers amis, je vous propose une petite pause pub et on se retrouve juste après. On parlera d'un autre héritage du Moyen-Âge, le boudin noir aux pommes.
La première. Restons curieux.
La cuisine belge à l'honneur jusqu'à 11h. On en parle avec Pierre Winans et Marc Declercq, auteur de cet ouvrage « La cuisine traditionnelle belge ». Un des plats que vous n'évoquez pas dans cet ouvrage, vous avez dû faire une sélection, Marc, ce sont les fameuses balkes, les boulettes. On peut les appeler les boulets à Liège ou les
c'est pas les mêmes, hein.
Non, mais enfin, l'idée est là. Hein.
Les Belges aiment le haché.
Il y a tellement de spécialités en Belgique, tellement de spécialités qu'il n'y a pas une région dans le monde que je connais qui a autant de spécialités, de bonnes spécialités qu'en Belgique, mais ça doit lui donner envie de faire encore
un deuxième livre.
Voilà.
Oui,
un deuxième opus.
Oui.
En tous les cas, on a un auditeur, Robert, qui dit qu'il déguste fréquemment dans une friture quelques bons plats de tradition bien de chez nous, carbonade, moule, etc. Mais surtout ces fameuses balkes, sauce tomate. Alors, il suspecte effectivement.
Il va où, Robert
il ne le situe pas. Il suspecte évidemment donc la présence de concentré de tomate, oignons, féculents, genre pain ou maïzena, sauce Worcester, mais il lui manque quelques petits points d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre dans cette fameuse...
Et qu'est-ce qu'il recherche, c'est la
recette
c'est la sauce,
des balkes
ou bien la sauce de
sauce
ou bien
tomate.
La recette des balkes.
Ah, apparemment, c'est plutôt sur la sauce que notre auditeur aurait des questions.
Enfin, s'il fait ses balkes, il peut prendre du haché de porc et du haché de veau et de mélanger ça avec des oignons hachés. Et avec un petit peu de pain pour
tu fais revenir les oignons
un petit peu plus moelleux. Non.
Non,
comme ça. Assaisonner, l'assaisonnement qu'il veut, un petit peu de massif dedans aussi. Et laisser reposer un petit peu la viande, de façon à ce que l'oignon cru donne son goût dans la viande. Après, ça fait des balles que c'est les cuire. Bon, la sauce, c'est une sauce tomate toute simple, avec des tomates fraîches, bien sûr. On peut renforcer un petit peu en tomates concentrées et de terminer ça avec un roux cuit, mouillé avec du fond de volaille.
Lié avec un fond de volaille et un roux.
Alors mettre du thym, du laurier, de l'ail, c'est sûr, ça. Et puis mettre les arômes qu'il souhaite.
Oui, on peut mettre. Enfin, chacun a sa recette finalement.
Mais toutes les recettes traditionnelles ne sont jamais vraies que dans l'instant où on les fait. Et après, chacun les interprète.
J'ai ici une recette qui vient d'un livre de cuisine de 1669.
Ouh.
Oh là.
C'est un de vos fans, il veut une recette.
Ah, oui,
c'est déjà un éditeur pour un deuxième livre.
Le 42e.
Peut-être, oui. Et il écrit ici pour faire de très belles fricadelles. Il dit des fricadelles. Prendre du hachis de veau, du poivre moulu, du massis, de la noix de muscade, quelques biscottes émitiées, des œufs, mais retirer la moitié des blancs d'œufs. Pétrir le mélange et en faire des fricadelles. On peut faire on peut faire des boules. Ensuite, les rouler dans le blanc d'œuf et les plonger dans l'eau bouillante. Et quand elles sont cuites, les faire revenir dans du beurre. Elles seront très bonnes.
Ah oui, il ajoute. Alors c'est intéressant, regardez. Votre recette date de quand?
De 1669.
Elle parle du massis. Pierre qui est beaucoup plus récent, nous parle du massif également. Le massif, personne ne sait ce que c'est. C'est l'enveloppe.
C'est l'enveloppe de la noix de muscade.
Mais on en parlait il y a trois semaines. Si
oui, mais donc voilà, c'est très intéressant. Donc, vous êtes vous-même l'héritier de cette tradition. Ouais, parce que le massif, on a un petit peu oublié ce que c'était. Et c'est une épice qui parfume magnifiquement.
C'est-à-dire que c'est une épice qui est plus employée en charcuterie et en boucherie, parce qu'ils doivent en employer des grandes quantités. Quand vous devez râper de la noix de muscade pour faire 1000 kilos de balle, qu'est-ce qu'on mange? C'est pas évident.
Ce que j'aime bien, c'est tout l'héritage d'un chef comme Pierre, c'est que c'est un chef tellement éclectique qu'il est un petit peu boucher, un petit peu pâtissier, un petit peu...
Mon père était boucher.
Voilà, oui, mais c'est ça. Mais donc, vous maîtrisez tous ces métiers, et c'est ça l'héritage intéressant.
Dites, vous savez quoi? Il y a Sylvie qui nous demande la fin de notre recette des carbonades à la flamande, parce qu'on a été pris dans notre...
Mais on a mis la tartine.
Donc, attendez. Donc, notre viande...
La sauter.
Voilà.
Ajouter les oignons, les sauter aussi. Les singer, comme on dit.
Mettre
un petit peu de farine pour épaissir la sauce. Le laisser 2 minutes, ça dépend un petit peu du feu, pas trop grosse chaleur, pour pas que ça brûle, parce qu'une fois qu'on met ça dedans... Alors, mouiller avec la bière. Et avec un petit peu d'eau, ça dépend un petit peu.
Quelle
bière est-ce que vous employez?
C'est au choix, mais vous utiliseriez quel type de bière?
Moi, je mets souvent de l'alambic.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Alors,
bien,
il faut un petit peu de.
Il faut un petit peu. Faut de sucrer après.
Oui, il faut un peu de fond de volaille.
Ouais. Ah oui, trapez brune. Donc tout à fait autre chose.
Oui, et on peut rajouter un petit peu de sirop de liège. Ça sert aussi à beaucoup de choses.
C'est pas traditionnel, mais c'est bon.
Non, c'est pas traditionnel, mais ça peut compléter
Surtout si vous mettez l'alambic, qui est très acide.
Voilà, justement.
Et puis après, on laisse mijoter.
Le pain d'épices ou bien le pain à la moutarde. Et naturellement, il faut ajouter le sel, le poivre, l'ail, le thym, le laurier.
Et laisser faire le temps.
Non. Et laisser mijoter.
Ouais, laisser mijoter et puis alors laisser épaissir avec le pain, avec la moutarde dessus ou bien le pain d'épices. Tiens, je ne l'ai jamais mangé avec du pain d'épices, mais du pain d'épices. Est-ce qu'on mettait de la moutarde dessus aussi?
Oui. Je vous parle toujours de ma petite vie à moi.
Voilà, Sylvie, j'espère que là, vous l'avez, votre recette intégrale de carbonade.
On va faire un contest
par
de...
Monsieur Pierre Winans. Alors, on parlait de ces héritages du Moyen-Âge, Marc de Clerc, de ces plats qui aujourd'hui font partie totalement de notre patrimoine gastronomique. On ne peut pas passer outre le fameux boudin noir aux pommes. C'est une association qui est très courante, très appréciée, notamment les dimanches, boudin compote.
J'adore le boudin.
Justement, cette association à nouveau sucrée et salée, c'est clairement du Moyen-Âge.
Oui, c'est justement.
Et c'est resté ancré dans notre culture.
Oui. Hein, et la recette dans mon livre date de... il y a déjà 2000 ans. Parce que c'est une recette qui vient d'Apicius, dans le Dorée Coquinaria, qui vécut de l'an 25 avant notre ère et 37 de notre ère. Et il écrit déjà une recette de boudin noir. Mmh. Et la plupart des livres de cuisine du Moyen-Âge reprennent des méthodes de préparation du boudin noir. Par exemple, l'auteur de l'ouvrage Le Ménager de Paris, en 1392, propose 3 recettes de boudin noir. Et comme cela se faisait couramment dans la cuisine moyenâgeuse, il utilisait le sang aussi pour épaissir les sauces.
Mmh. Oui, comme dans le Lièvre à la Royale encore aujourd'hui.
Voilà. Et leur donner plus de couleur et de goût. Et ces préparations très, très élaborées du boudin noir utilisent, outre autres, le sang de cochon, mais également de la viande de porc finement hachée, aussi que les abats.
Mais Marc et Pierre, le boudin chez nous en Belgique, il est plus sucré qu'ailleurs, non? Le boudin noir.
Mais ça dépend si on met. Quand nous autres, on le fait. Moi, je ne suis pas nécessairement pour les pommes ou les petits raisins, et ainsi de suite. Ce qu'on peut ajouter dans le. Ce qui sont plutôt des spécialités du côté de la Wallonie, du côté de Liège, et ainsi de suite. Parce que le boudin noir, je préfère rester dans la structure du boudin, vraiment épicé. Mais il faut dire une chose, c'est que le boudin noir, c'est d'abord du gros boulot. C'est énormément de travail, bien sûr. C'est énormément de marchandises, de matières premières. Et ça coûte cher pour finir, d'ailleurs. Parce que la grande partie des boudins que vous retrouvez dans les supermarchés, ce sont des boudins où on met une grande quantité de liant ou de pain.
Oui, autant dire que vous n'aimez pas trop.
Il y a moins de matière.
Oui. Mais justement,
pardon, Sophie, vous disiez épicé. Quand vous le faites vous-même, vous l'épicez comment?
Sel, poivre, un petit peu de marcisse de nouveau, et j'ajoute éventuellement la marjolaine.
Ah oui.
Donc le massis, on rappelle, c'est l'écorce de la noix de muscade, hein, qui est d'ailleurs très utilisée en Wallonie, hein, Carlo. Marc de Clerc, dans cet ouvrage La cuisine traditionnelle belge, vous évoquez quelques bonnes adresses aussi où trouver tous ces bons produits. Vous dites que le boudin noir de Campine a une saveur très très particulière. Il a quoi de particulier, ce boudin noir de Campine? On y ajoute quoi, justement? Des fruits, des petits raisins?
Oui, il a une saveur typique légèrement épicée avec du poivre, du sel, du piment et de la noix de muscade. Mais on y ajoute des oignons et ça donne une texture à la fois consistante et légère.
Ah
ouais. Ouais. Il y a à Kiel, il y a une boucherie qui s'appelle Charcuterie Van de Kreuz qui fait un boudin noir
extraordinaire.
Ouais, ouais.
Mais comment faire pour ne pas martyriser...
Vous me donner l'adresse?
Oui. Dans le livre.
Ah bon, Mais je dirais quelle page.
Comment est-ce qu'on fait, Pierre, pour bien, si le boucher a bien fait son travail, pour rendre honneur à ce boudin noir dans la poêle, pour le cuire, pour ne sans l'abîmer? Moi, ça explose parfois.
Ah oui, mais il faut le piquer. Hein.
Oui, et feu très doux.
Oui, feu très doux. Mmh. Et le piquer un petit peu.
C'est ça. Ouais. Et après, oui, c'est vrai. Alors, l'association pomme-boudin, il y a un truc quand même qui est typique.
Faire la pomme à part.
La pomme à part,
et le boudin à part.
Ça, moi, je suis bien d'accord.
Ouais, l'association ne vous plaît pas.
Non, on peut faire l'association. Et la pomme, on peut la faire caraméliser. Mmh. Oui, on peut la faire à part.
Séparément. Mais c'est vrai que, traditionnellement, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, le sucré salé dans l'assiette, qui au Moyen-Âge, tout le monde trouve ça normal, qui a un petit peu disparu dans la cuisine française, qui est encore, par contre, qui existe très très fort dans les cuisines d'Europe centrale, est encore resté vivant chez nous. On sert une demi-poire avec le gibier, on sert des abricots avec le rôti de porc.
Les érelles,
nos amis français les servent aussi un petit peu, mais donc on a gardé cette habitude, cette carbonade qui est quand même franchement sucrée, salée, le lapin au pruneau. Donc pour nous, c'est vrai que ça c'est un des marqueurs typiques de la cuisine belge du nord au sud. Hein. On peut le dire.
Alors, le filet américain. Ça c'est bon.
Avec mayonnaise.
Mais justement, avec ou sans mayonnaise, le débat est vif. Alors, Marc de Clerc, à quand remonte cette appellation filet américain pour désigner cette viande de bœuf crue, hachée, avec sauce, aromate, filet américain?
Eh bien, c'est à Bruxelles que tous les regards se tournent vers Joseph Niels. C'est un restaurateur bruxellois qui, en 1924, ouvrit au boulevard Germain le Canterbury.
Ouais.
Et c'était une taverne-restaurant qui existe, je pense.
C'est déplacé.
Où il ne tarda pas à introduire son filet américain. Et la recette était basée sur la préparation de steak tartare à la française.
Donc le steak tartare existait?
Existait, oui, certainement.
Donc pour qu'on comprenne, le steak tartare,
à la française.
Carlo, vous qui avez envie de parler.
Mais non.
Le steak tartare, c'est quoi?
Je fais une thèse, je vais encore recevoir des mails. Mais
le steak tartare, c'est
quoi? Je ne sais pas, moi, exactement. Je ne connais pas bien l'histoire du steak tartare. Je peux vous dire que dans toute l'Europe, on mangeait de la viande crue.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'ils mettaient, les Français, Marc, dans le steak tartare?
La seule différence avec le steak tartare était l'utilisation de mayonnaise relevée avec du piccalilli.
Donc les deux.
Et les Italiens font bien du carpaccio, maintenant. Maintenant, il faut faire une émission sur les frites, il faut faire une émission sur le filet américain, parce qu'il y a la guerre entre le steak tartare et le filet américain.
J'ai une ébauche de réponse. Le steak tartare contient de l'anchois, de l'ail et du citron.
Oui, c'est possible,
et de
la moutarde aussi.
Apparemment, le filet américain.
Oui.
Me trompe-je?
Mais c'est ça, l'absence d'anchois, d'ail et de citron dans le filet américain.
Mais là aussi, autant de recettes. Mais je pense que, de nouveau, comme on le disait tout à l'heure avec la frite, je pense que ce que Niels a fait, et qu'ils font toujours d'ailleurs, parce que, en ce qui me concerne, pour moi, c'est toujours une référence, ils ont popularisé un plat qui, sans eux, n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu. Donc, et d'ailleurs, ils ont été copiés. Et c'est vrai que la recette traditionnelle à laquelle nous avons pris goût en Belgique, c'est avec de la mayonnaise,
Hein, probablement
oui, mais du... attention, hein, pas n'importe quelle mayonnaise. Ah
parce que moi, alors justement, chef, ouais, chef.
Moi, je me rappelle encore de meilleur filet américain que j'ai mangé. Je crois que cette adresse n'existe plus, chez Pierrot, rue Astrid. Tout d'abord, la viande doit être choisie, plat de cuisse, tache noire, de l'épaule. Mm-hmm. Ça doit être coupé au couteau et mélangé à une mayonnaise que vous faites vous-même.
Attendez, jaune. Je vous interromps, on ne hache pas la viande.
Au couteau.
Au couteau.
Haché, mais au couteau.
Oui, mais attendez.
C'est pas la même chose. C'est pas,
je
ne l'hache
pas.
Au hachoir, c'est pas au grand hachoir. C'est okay. Au couteau.
Haché finement.
Le vrai. Hein.
OK.
Oui, et pas trop finement pour les grands amateurs.
D'accord.
Donc, bonne viande, mais mélangée avec une mayonnaise qu'on fait, mais avec moins d'huile. Mmh. C'est-à-dire un jaune d'œuf. Mmh. On met un peu de moutarde, l'assaisonnement. On mélange à la fourchette avec un petit peu d'huile. Et puis, on mélange le filet américain. Non, c'est pas une mayonnaise qu'on vient rajouter dans
c'est
le filet américain. La meilleure, hein.
Oui, oui.
Et puis, l'assaisonnement, ça vous fait...
On fait tomber la viande dans le bol où on fait la mayonnaise.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est alors, on met des oignons, des cornichons, des capres, on met tout ce qu'on veut. Eh bien, un peu de tabasco, un peu de choses anglaises.
Ça donne
les Français mettent dans leur sec tartare. Il y en a qui mettent... Moi, j'ai vu mettre des tomates ketchup, par exemple.
Oui. Enfin, donc, votre recette...
Chacun peut mettre un petit peu ce qu'il veut.
Et sur la base...
mentionne déjà
le tartare.
Le tartare, le beefsteak à l'américaine ou le beefsteak à tartare.
Quoi? Escoffier dit beefsteak à l'américaine.
Oui, oui, oui.
C'est amusant, ça.
Ça consiste en viande de bœuf haché, assaisonnée avec du sel et du poivre, qu'on façonne en forme d'une boule plate au centre de laquelle on dépose un jaune d'œuf.
Ouais. Moi, j'appelle ça le cyclope. Moi, j'aime bien qu'il soit déjà...
Le cyclope, oui. Et la garniture se compose de petits bouquets d'oignons finement hachés, de capre et de persil haché.
En fait, c'est Escoffier qui avait tout fait.
Ouais.
Mais cela dit, je ne sais pas si Pierre sera d'accord avec moi, moi la recette de Pierre, là, ça me donne vraiment envie d'essayer. Hein. Sinon, les héritiers de Niels font toujours assez bien dans le genre, plutôt plus moulu, alors évidemment.
Oui. Enfin, il est un fait évident que la recette que j'ai donnée, c'est difficilement se faire...
Avec 100 couverts à midi.
Avec 100 couverts à midi, hein, oui. C'est sûr.
Quoi qu'il y ait quand même quelques petites brasseries, enfin, moi j'en connais une qui en fait un fabuleux, mais bon, je mettrai peut-être l'adresse sur la page Facebook,
mais
si vous
oui,
êtes
Sophie,
bien sage,
faites-nous un peu profiter.
Il faudrait quand même juste signaler que ce fameux filet américain est devenu très populaire lors de l'Expo universelle en 58, et c'est ça qui a fait que, finalement, ce plat est devenu un incontournable des cartes de brasserie en Belgique.
C'est ça, mais c'est nouveau
un incontournable. Parce que, voilà, a priori, rien de très belge dans le truc, sauf, bon, effectivement...
L'appropriation.
Voilà, petite pause, musique, avec Claudine Mounot, égoïste triste. Et puis juste après, on parlera des croquettes aux crevettes.
Ah, chouette.
La première, podcast.
Car je suis une égoïste triste.
11h48, il nous reste moins de 10 minutes pour évoquer encore quelques bons petits plats bien de chez nous. Parmi ceux-ci, les croquettes crevettes.
Coulant ou pas coulant,
oh là,
hein,
ça c'est un pur bonheur.
Mon favori.
C'est une invention assez récente que cette croquette aux crevettes. Cela étant dit, il faut quand même le signaler, Marc de Clair, au Moyen-Âge, on avait ce qu'on appelle les rissoles.
Les rissoles français.
Voilà. Ouais.
Mais ce n'était pas...
Des raviolis,
pas une croquette, mais c'était une gâteau savoureux, frite ou cuit au four. Et on les prépare avec de petites lamelles de pâte feuilletée, de brioche ou de pâte à foncer, que l'on remplit d'un amalgame d'ingrédients morcelés.
Ça, c'est les rissoles.
Ça, c'est les rissoles, oui.
Et vous avez trouvé une recette de croquettes chez un chef bien de chez nous.
Caudrelier, oui.
Well, Caudrelier, début 19e,
hein,
1860.
Mi-19e, pardon. Bah, il propose des recettes de croquettes de pommes de terre, de dinde, de poulet, de riz de veau, de turbo, de riz et des croquettes de Westphalie. Et ces dernières...
Des croquettes en Westphalie. Il y a des croquettes en Westphalie.
Oui, je ne savais pas.
Et donc, qu'est-ce qu'il propose, Caudrelier?
Il propose que les croquettes de Westphalie sont préparées à base de pommes de terre, de jambon et d'œufs cuits durs. Mais à la fin de la recette, Caudrelier ajoute un commentaire qui a son importance. C'est « Les jours de carême, on remplacera le jambon par des crevettes ».
Et
je pense que c'est sans doute de premier fait qu'il ait fait allusion aux croquettes aux crevettes dans un livre de cuisine belge.
Mais donc... Marc, c'est une croquette, ce n'est pas un appareil, ce n'est pas un roux, ce n'est pas une béchamel.
l'appareil, le mélange chez Caudrelier.
Oui, oui, c'est un béchamel.
Il y a une béchamel aussi, parce qu'il y a des, vous me disiez, il y avait des pommes de terre.
Oui, oui.
Mais il y a une béchamel aussi. Il y a un béchamel. C'est vraiment l'ancêtre de notre croquette aux crevettes. Sauf que nous, on a rendu le jambon de Westphalie aux Westphaliens.
Et qu'on a gardé les crevettes. Chef, Pierre Mignon, je sais que vous êtes un grand amateur de croquettes aux crevettes. Vous nous disiez hors antenne, qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver dans les restaurants en Belgique de très bonnes croquettes crevettes.
Oui, mais enfin,
Il y a moyen.
On en connaît quand même.
Est-ce que c'est facile à préparer chez soi?
C'est déjà un petit peu de travail, mais on peut. Surtout que si on veut les faire convenablement, il faut prendre des crevettes fraîchement épluchées. Il faut les éplucher soi-même. Il faut d'abord qu'elles soient sélectionnées. On prend que des grosses. Les prendre en bonne saison, qui va d'avril à novembre. La meilleure, c'est septembre-octobre. Pour les crevettes, il faut prendre les crevettes que ce soit d'Ostende, de Zeebruges ou de Nieuport. On a quand même les meilleures crevettes, surtout que la Belgique a interdit demain celles de conservation dessus. Elles sont vraiment délicieuses. Donc il faut d'abord avoir la matière première, comme dans toute préparation d'ailleurs. Et puis il faut faire un bouillon avec les épluchures, avec un petit peu de légumes, de nouveau avec du thym, du laurier, des oignons, des carottes, et le faire ce bouillon, laisser tirer, amener à ébullition, laisser tirer 5 minutes et passer. Parce que si jamais vous le laissez trop longtemps, ça devient, c'est comme la fumée de poisson, ça devient âcre. Donc, alors, on fait on travaille avec un genre de béchamel, si on veut, qu'on mouille avec moitié lait et moitié...
Moitié le bouillon.
Et moitié bouillon. On peut mettre dedans un tout petit peu de... On peut jouer à son goût aussi. On peut mettre un tout petit peu de parmesan, on peut mettre un tout petit peu de purée de tomate pour donner de la couleur supplémentaire.
On fait un bisque, mais épaisse.
Et alors, ça dépend. Il faut l'essayer une fois ou deux. Si ça colle de trop, il faut mettre une petite feuille de gélatine pour ne pas mettre trop de farine avec le roux de la béchamel.
Ah oui, mais donc la gélatine dans les croquettes crevettes.
On peut mettre un petit peu.
Ça va donner la consistance.
Cette histoire du boulon, c'est une histoire de gélatine.
Voilà.
Parce que si vous mettez de la gélatine, elle va se fondre après. Et c'est ça qui va faire que la...
Donc alors, il faut faire tout ça, il faut le couler dans une plaque, il faut laisser refroidir, et le lendemain, il faut l'épanner.
Ça se passe en plusieurs étapes, tout ça.
Oui, bien sûr, il faut laisser refroidir pour que la matière s'épaissit et devient ferme. On les découpe, on les passe dans la farine, on les passe dans l'anglaise, comme on dit, des blancs d'œufs qui sont mélangés avec une toute petite pointe d'huile et de l'assaisonnement. Et puis alors dans la mie de pain ou dans la chapelure.
Et voilà,
après, il faut les faire frire. Et si elles sont trop épaisses, il faut les mettre... un petit peu dans un four préchauffé à 180 degrés pour que ce soit tout à fait chaud à l'intérieur.
Ah ben voilà. Dites, Marc de Clerc, dernière question, vous avez une bonne adresse pour manger des bonnes croquettes crevettes?
À Bruxelles, oui.
La belle maraîchère, on y parlait.
Sainte-Catherine.
Place Sainte-Catherine.
Il y aura du monde ce midi.
Et la Villa Lorraine, le mythique.
Le diptyque à la Villa Lorraine pour la croquette coulante. Pour la croquette coulante de Freddy Van de Casserie.
Freddy, ça c'est aussi un cas. Un ambassadeur de la cuisine belge,
c'est sûr.
Voilà, chers auditeurs, on aurait pu encore parler de plein d'autres choses, du Waterzooid, du hoche-pot, du cabillaud, la flamande. Malheureusement, le temps passe trop vite, que vous voulez, quand on s'entend bien entre invités. Voilà, dans quelques minutes, chers auditeurs, Transversal, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'une cuisine ensoleillée, la cuisine napolitaine. Vous la connaissez?
Pas du tout.
Découverte. Marc de Clerc, je rappelle le titre de votre ouvrage, La cuisine traditionnelle belge. C'est publié aux éditions Luc Pire et Pierre Winans. Je vous rappelle qu'on peut aller déguster tout ça au Comme chez soi, où œuvre Lionel Rigolet.
Oui, en partie. On emploie surtout des produits où on les magnifie avec surtout les asperges à la flamande qui sont traitées avec des coquilles Saint-Jacques ou des langoustines.
Ouh là là. Oui, mais moi, pour ce midi, ce sera filet américain. Et bonne petite frite.
Oui, eh bien, on s'en va.
Chers auditeurs, profitez bien des derniers rayons de soleil. On se retrouve demain matin ou samedi prochain, tout bientôt.
Merci.